France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
À 5 jours du second tour de l'élection présidentielle, le 13-14 vous propose d'interroger les soutiens des deux candidats avant de nous pencher sur le programme et la campagne d'Emmanuel Macron demain. Nous nous intéressons aujourd'hui au projet porté par Marine Le Pen. Politique étrangère, institutions, emploi, protection de l'environnement. Quel changement entraînerait ce projet pour le pays et pour vous si Marine Le Pen était élue présidente de la République dimanche soir? Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole de Marine Le Pen, est notre invité. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Merci d'être là dans ce 13-14. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et via l'application France Inter. Quelques questions liées à l'actualité en Ukraine, si vous le voulez bien, Sébastien Chenu, pour débuter. Nouvelle phase dans l'offensive menée par la Russie avec la poussée des Russes dans l'Est, dans le Donbass. Est-ce que cela doit conduire à de nouvelles sanctions selon vous ?
Probablement, il faut d'abord condamner. Marine Le Pen a condamné très fermement cette avancée russe dans le Donbass. C'est probablement qu'il faut aller vers des sanctions. Encore une fois, partout, on peut prendre des sanctions qui, viennent sanctionner, abîmer l'action de Vladimir Poutine. Eh bien, il faut le faire parce qu'il faut que cette guerre s'arrête. Mais cette guerre ne s'arrêtera qu'avec la diplomatie. Il faut le savoir. Les sanctions mettent une certaine pression. Nous souhaitons des sanctions qui, évidemment, n'aient pas d'impact sur le peuple français parce que ce serait évidemment contre-productif. Pour les Français, il faut des sanctions qui vraiment gênent Vladimir Poutine et son régime, mais il faut surtout que des négociations diplomatiques, le plus rapidement possible, s'opèrent. Ça veut dire qu'en réalité, l'action qui consiste à parler à Vladimir Poutine chaque jour, comme le fait Emmanuel Macron, elle est nécessaire.
Plus depuis les massacres de Boutcha, disait le président de la République
récemment. Oui, mais à un moment, il va bien falloir que la solution soit diplomatique, sinon c'est la guerre. Donc la diplomatie, toujours la diplomatie, encore la diplomatie, il faut que cette guerre cesse.
En 2014, Marine Le Pen estimait que l'annexion de la Crimée n'était pas illégale. Pourquoi celle du Donbass le serait à vos yeux aujourd'hui ?
Mais parce qu'elle est dans un schéma qui est celui de Vladimir Poutine, qui est celui d'une avancée permanente, et on le voit bien parce que
le Crimée aussi.
Non, c'était pas exactement pareil, mais le Donbass, vous savez bien qu'au Donbass, il y a une partie du Donbass qui réclame d'ailleurs son rattachement à la Russie de Vladimir Poutine, que c'est évidemment très complexe, mais derrière il y a une logique.
Sur quelle base est-ce que vous pouvez dire ça ? On n'a pas consulté les habitants
ukrainiens du Donbass. Non, mais il y a en tous les cas une logique qui est celle de l'impérialisme en fait russe de Vladimir Poutine. On le voit bien, cette logique impérialiste, on peut pas l'accepter. Enfin, je veux dire, l'Europe ne peut pas l'accepter. Non, ça va crescendo.
Un dernier mot sur la politique étrangère, Sébastien Chenu. Marine Le Pen a eu des mots très durs envers l'Allemagne. L'Allemagne s'affirme comme le négatif absolu de l'identité stratégique française. Elle veut mettre un terme à tous les programmes franco-allemands en matière de défense. Est-ce que cela vaut pour d'autres pays ou uniquement pour l'Allemagne? Et si oui, pourquoi?
Parce que en fait, il faut bien voir que nos intérêts en matière de défense, parce qu'à côté de ça, on veut développer tout ce qui est coopération franco-allemande, que ce soit l'apprentissage de la langue, les échanges, qu'ils soient culturels, qu'ils soient scientifiques, etc. Mais en matière de défense, l'Allemagne s'est placée sous la protection de l'OTAN. C'est un choix qu'elle a fait il y a très longtemps de dénucléariser. Et en se plaçant sous la protection de l'OTAN, bien sûr, c'est un choix qu'elle a fait, un choix politique, historique. Nous, on a fait d'autres choix. Mais en se plaçant sous la protection de l'OTAN, finalement, elle est un peu à la remorque des États-Unis. Et donc, on est en divergence avec l'Allemagne en ce qui concerne la politique de défense. Nous considérons que la politique de défense, elle doit rester française, que l'armée française doit être commandée par des militaires français. C'est parce que nous avons
C'est le cas aujourd'hui.
Parce que nous avons l'arme nucléaire, parce que nous avons un format d'armée complète, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et donc ça veut dire que les coopérations en matière de défense avec l'Allemagne, elles n'ont pas vocation d'être. Elles ont vocation à continuer dans l'ensemble des autres domaines, évidemment. Je vous rappelle que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial.
C'est ce que j'allais vous dire, c'était très mal perçu à Berlin, ces propos. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, dans les échanges commerciaux entre les deux pays?
Mais parce que Berlin a une logique qu'on connaît depuis longtemps et que je peux respecter, c'est la logique de la défense des intérêts des Allemands. Eh bien, moi, j'aimerais que demain, on ait un président qui ait comme logique la défense des intérêts des Français.
Question de Marie-Laure au standard de France Inter. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors voilà ma question. Le Rassemblement national parle depuis longtemps de la suppression du voile musulman dans les lieux publics, notamment. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est du foulard porté par les catholiques, puisque à mes yeux, ce foulard catholique est assimilable au voile musulman. Merci.
Alors,
Réponse de Sébastien Chenu.
Bonjour madame, et je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Notre but n'est pas d'enlever un morceau de tissu de la tête des femmes, qu'elles soient musulmanes ou catholiques. Notre but est de lutter contre l'islamisme, c'est-à-dire une idéologie qui cause des morts, qui a causé des morts dans notre pays, une idéologie qui soumet la femme et dont l'emblème est ce foulard islamique, autrement dit hijab d'ailleurs, puisque l'emblème islamiste en ce qui concerne ce foulard, c'est le hijab. Mais bien entendu, pour lutter contre l'islam radical, d'abord, on a besoin de tout le monde. On a besoin de nos compatriotes musulmans. Mais surtout, il faut supprimer les financements, fermer les mosquées radicales, interdire le salafisme dans notre pays. Je me souviens d'ailleurs que l'interdiction du salafisme, c'était quelque chose qui, à l'époque, vous allez voir, avait été réclamé par Nathalie Kosciusko-Morizet. On peut interdire d'ailleurs des idéologies très néfastes dans les pays. En France, c'est le cas. Il y a des idéologies qui sont interdites. Le Parlement sait très bien faire. Et l'emblème, c'est le foulard islamique, c'est le hijab. Et c'est celui-ci que nous combattons parce qu'il soumet la voix femme, il l'enferme, et parfois même contre son gré, sous des pressions qui sont parfois familiales, affectives, communautaires. C'est ça. Et on a besoin d'une loi pour faire ça.
Donc le port du voile sera interdit dans l'espace public ?
Oui, on a besoin d'une loi pour faire ça. Mais je vais vous dire, c'est...
Ce sera écrit dans la loi, ce sera interdit.
Oui, le port du voile islamique, qui est l'emblème de l'islamisme, de l'islam radical, sera
interdit.
Parce
que Marine Le Pen ne savait pas dire hier si c'était oui ou si c'était non.
Mais si, mais surtout, le Parlement va voir la mise en œuvre. Vous savez, le Parlement a très bien su créer des lois pour contrôler les gens qui sortaient de chez eux à moins de 5 kilomètres, etc. Le Parlement sait très bien faire ça. Mais n'oublions pas, l'objectif principal, c'est la lutte contre l'islamisme et c'est libérer les femmes de ce pouvoir qui, islamiste encore une fois, les contraint et les enferme.
Et pour répondre à Marie-Laure, les foulards portés par les sœurs catholiques ?
Non, mais ça n'a pas de lien, c'est pas l'islamisme, les foulards portés par les sœurs catholiques. Et j'ajoute d'ailleurs que le personnel
donc
religieux...
Donc pas d'interdiction pour les autres signes religieux des autres religions.
Aucun problème avec le personnel religieux, quel qu'il soit. Le personnel religieux, c'est le personnel religieux. Il n'y a pas de problème avec ça.
Et port de la kippa aussi autorisé dans l'espace public.
Mais ce n'est pas l'islamisme. Nous luttons contre l'islamisme. On ne lutte pas contre une religion, on ne lutte pas contre l'islam. On lutte contre l'islamisme. C'est ça qui cause des morts dans notre pays.
Michel est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour François Inter. Merci pour la qualité de vos émissions et merci de me donner l'antenne. Je souhaiterais poser une question au représentant de Marine Le Pen parce que celle-ci est en train d'essayer de triturer, je dis bien triturer, la Constitution. Est-ce que votre invité a réellement compris que le recours proposé par Marine Le Pen au référendum de l'article 11 de la Constitution est inconstitutionnel, puisque tous les spécialistes du droit constitutionnel, de gauche et de droite, l'affirment? Et deuxièmement, sera-t-il en mesure, je dis bien, sera-t-il en mesure d'expliquer aux auditeurs de France Inter la confusion qui est faite volontairement par Marine Le Pen entre les articles 11 et les articles 89 de notre Constitution actuelle, qui, actuellement, je le dis haut et fort, a pour but essentiel de protéger nos libertés publiques. Merci France Inter pour la qualité de vos émissions. Je renouvelle mes félicitations.
Sébastien Chenu, merci Michel, vous répond.
Bonjour monsieur. D'abord, je ne crois pas qu'il faille craindre quoi que ce soit avec le référendum. Vous savez, nous, notre objectif, et on n'a jamais essayé ça dans notre pays, notre objectif, c'est d'oxygéner la démocratie, c'est de recréer du lien entre le peuple, rappelons-nous des Gilets jaunes hein, qui ont tellement manifesté, recréer du lien entre ceux qui nous dirigent et les Français. C'est une nécessité, d'ailleurs il y a d'autres leviers, hein. La proportionnelle en fait partie aussi, et parmi ces leviers-là, il y a le référendum. Pour le référendum, il faut évidemment faire une modification constitutionnelle, mais une révision, ce n'est pas une remise en cause de la Constitution. Il y a eu 3 révisions en 20 ans de la Constitution, donc ce n'est pas une remise en cause de la Constitution. On fait une modification pour donner plus de parole aux Français.
Mais on ne peut pas le faire uniquement en passant par le référendum. Les spécialistes du droit constitutionnel sont unanimes sur ce point,
Sébastien Chenu. Ils ne sont justement pas unanimes. Le professeur Cambi, j'ai noté, la professeure Calves, et l'AFP a très bien repris ça d'ailleurs, l'agence France-Presse a très bien repris les propos de ces éminents juristes en droit public, constitutionnalistes, etc. Il y a un débat qui montre que l'article 11 de la Constitution, celui utilisé par le général de Gaulle, et je renvoie également à d'autres écrits, d'autres intellectuels ces jours-ci, eh bien cet article-là, il permet de modifier ceci. Vous savez, dans la Constitution, il est déjà écrit que la souveraineté, elle appartient au peuple français à travers ses représentants et à travers l'utilisation du référendum, l'usage du référendum. Donc oui, il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui utilisent le référendum. Ce ne sont pas des dictatures, ce ne sont pas des régimes autoritaires.
C'est pas la question de l'utiliser ou pas, c'est la question de l'utiliser pour changer la Constitution. C'est d'en passer par un vote de l'Assemblée nationale, puis par un vote du Sénat pour modifier la Constitution.
D'abord, Sébastien Chenu. changer la Constitution pour permettre une utilisation plus importante du référendum. On peut le faire, article 11. Ensuite, le référendum d'initiative citoyenne, il ne pourra pas changer la Constitution. Il ne pourra pas changer la Constitution, comme il ne pourra pas changer la peine de mort. Il y a un article dans la Constitution, l'article 66.1, qui l'empêche, je le dis, parce qu'il y a souvent des gens qui agitent des fantasmes, mais pas du tout. Il ne pourra pas changer
la préférence nationale, par exemple, elle n'est pas aujourd'hui permise par la Constitution. Alors, donc c'est pour ça que vous voulez la changer.
Voilà, il ne pourra pas, mais on demandera l'avis des Français. Hein, c'est ça, notre référendum. Il ne changera pas non plus l'appartenance à l'Union européenne. L'article 88.1, il ne s'agit pas de modifier ces articles-là. Il s'agit de pouvoir ensuite faire un référendum pour demander aux gens, aux Français, on leur a jamais demandé leur avis sur ce qu'ils pensent de la politique migratoire que nous leur proposons. Parce que nous souhaitons que ce soit les Français qui la valident, cette proposition. Et d'abord qu'il y ait des débats sur ces sujets-là, c'est plutôt sain dans une démocratie.
Éclaircissement sur le programme de Marine Le Pen avant ce second tour, Sébastien Chenu. Vous nous avez dit il y a une minute, oui, nous interdirons le port du voile. Donc ça, précision.
Du voile islamique, je pense qu'il faut que les choses soient très précises. Le port du foulard islamique. Je vous ai même parlé du hijab, qui est très défini d'ailleurs. Et le Parlement saura le définir, mais le hijab, le voile islamique, l'instrument de l'islamisme dans notre pays.
C'est-à-dire que vous faites la différence avec le voile que porte
le Parlement va définir. Le Parlement va définir ce qu'est le voile islamique. Vous savez que dans notre dans notre droit, il est tout à fait possible, parce que ça existe déjà, de définir
les outils.
Laissez-moi. Il est facile de définir, parce que ça se fait déjà dans le droit, les outils, les représentations d'idéologies qui sont interdites. Et bien donc, le Parlement définira la représentation de l'islamisme qui est interdite dans notre pays.
Mais avec quels critères? Comment on va distinguer un voile d'un autre? Les policiers et les gendarmes qui vont devoir faire appliquer la loi dans la rue.
Mais bien entendu, c'est le rôle du Parlement. Pourquoi d'ailleurs c'est le rôle du Parlement? Parce que le Parlement, on veut qu'il soit représentatif, on souhaite que ce débat, il s'instaure dans la société française.
J'ai essayé d'avoir plus de précision.
C'est déjà le cas dans la loi. Les représentations d'idéologies interdites dans notre pays sont déjà codifiées.
Autre demande de précision, Sébastien Chenu, sur la question des éoliennes. Louis Alliot, hier matin sur France Inter, nous dit l'idée n'est pas de les démanteler. Et hier midi, Marine Le Pen explique sur France Bleu qu'elle engagera le démantèlement des éoliennes une fois élue. Qui croire?
Non mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier quel est l'objectif. À chaque fois, j'ai repris, suite à vos questions, l'objectif à atteindre.
C'est intéressant.
Oui, bien sûr, mais l'objectif à atteindre, non, mais il ne faut pas se noyer dans de la technique. Il faut garder l'objectif, c'est sur ça qu'on est jugé. L'objectif à atteindre, c'est qu'il n'y ait plus d'éoliennes dans notre pays. Pour quelle raison? Ça coûte très cher, ce n'est pas efficace. Je vous rappelle que lorsque l'éolien ne fonctionne pas, dans 70% des cas, ce sont des énergies polluantes.
C'est 7% du mix énergétique français aujourd'hui.
Oui, mais ce sont des énergies polluantes qui viennent prendre le relais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres types d'énergie, notamment sur l'hydrogène. Nous, on pousse beaucoup sur l'hydrogène. Je pense que ça abîme les paysages, ça abîme les fonds marins, c'est très laid. Bon, nous, on mène le combat contre l'éolien. Mais une fois que les éoliennes sont implantées, vous savez très bien qui doit les démonter au bout de 10 ans. Ce sont les communes, les petites communes, parce que souvent dans la ruralité, qui se retrouvent à devoir les démonter. Donc une fois que les éoliennes, ça dure à peu près 10 ans une éolienne, sont hors de service, nous demanderons que les entreprises qui ont bénéficié de fonds publics en assurent le démontage.
Vous ne les démontez pas à l'automne si Marine Le Pen
est élue. Tout à fait raisonnable. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus d'éoliennes, c'est-à-dire arrêter de subventionner des nouveaux champs d'éoliennes. Et lorsqu'elles arrivent en fin de vie, les entreprises qui ont touché de l'argent public assurent le démontage pour pas que ça retombe sur le dos des petites mairies.
D'accord, en fin de vie et donc pas immédiatement une fois que...
Ça pourra pas se faire en un mois. Malheureusement, moi j'aimerais bien, vous savez, qu'on se débarrasse des éoliennes plus rapidement.
Question de Louis qui nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Louis.
Oui, bonjour aux journalistes de France Inter. Merci de prendre ma question. Donc bonjour monsieur le député.
Bonjour monsieur.
La question est suivante. Marine Le Pen est élue dimanche prochain. Est-ce qu'elle a les femmes et les hommes derrière elle pour diriger la France, je pense au gouvernement et les postes importants de l'État?
Merci monsieur de cette question, parce que je vois que beaucoup s'inquiètent de cela. Vous savez, moi lorsque j'ai regardé qui était le ministre d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, j'étais sur ma chaise et j'ai découvert qui étaient Frédéric Vidal, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et quelques autres, Jean-Michel Blanquer, dont je n'avais jamais entendu parler. Ces gens ont pris une notoriété parce qu'ils sont entrés dans la lumière de leur fonction. Et bien autour de Marine Le Pen, vous avez des gens qui ont peut-être pas de notoriété aujourd'hui, qui en auraient demain. Vous avez des gens qui ont une petite notoriété parce qu'ils sont parlementaires. Je pense à Jean-Paul Garot, qui est un magistrat qui a été député de Gironde. Je pense à Hervé Juvin, qui est un économiste qui a commencé sous Raymond Barre et qui est aujourd'hui parlementaire européen. Vous voyez, ce sont ces gens-là. Et une deuxième chose, Marine Le Pen s'est toujours astreinte à faire éclore une génération politique. Le plus jeune député européen, Bardella, la plus jeune députée, Marion Maréchal, le plus jeune sénateur, David Rachline. Eh bien, elle va se contraindre aussi à faire éclore une nouvelle génération d'hommes et de femmes compétents.
Dernière question, Sébastien Chenu, votre projet pour l'éducation et pour le collège. J'ai lu que vous étiez pour la fin du collège unique.
Oui.
Ça veut dire orientation beaucoup plus jeune des jeunes français ?
Oui, parce que souvent, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, quand c'est possible, les jeunes arrivent un peu trop tard à la nécessité de pouvoir choisir leur choix d'orientation professionnelle. On pense qu'il faut le plus tôt possible permettre aux jeunes de pouvoir être bien orientés. C'est l'une des possibilités pour que la formation professionnelle et l'apprentissage deviennent des outils qui soient vraiment en lien avec les besoins en emploi.
Donc dès la quatrième en entreprise ?
En entreprise, vous savez qu'il y a des systèmes qui permettent de faire d'abord des stages en entreprise, puis de commencer à s'ouvrir à la vie de l'entreprise. Il faut aller beaucoup plus vers là. L'Allemagne, dont vous parliez tout à l'heure, et d'aller beaucoup plus loin que nous sur ça. Vous voyez que c'est intéressant parfois, l'Allemagne, pas toujours sur la défense, parfois sur l'éducation.
Merci à vous, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, député du Rassemblement National, invité de ce 13-14. Demain, nous décortiquerons le programme d'Emmanuel Macron avec la députée Yaël Braun-Pivet, qui sera notre invitée.